Chapitre 54. Jeudi 24 décembre. Simone, Eric et Benjamin entrent dans un Stockholm gris sous un ciel déjà assombri. L'air est lourd de pluie. Une brume légère, presque pourpre, enveloppe la ville. Des guirlandes électriques colorées brillent un peu partout, sur les sapins et aux balustrades des balcons. Des étoiles de Noël pendent aux fenêtres et des Pères Noël plantés dans des décors argentés ornent les vitrines. Le chauffeur de taxi qui les dépose à côté de l'hôtel Biriergarl porte un bonnet de Père Noël. Il leur fait un signe de la main dans le rétroviseur et il voit qu'il a perché un Père Noël en plastique sur l'enseigne du taxi sur le toit. Simone jette un œil en direction du hall et des fenêtres sombres du restaurant de l'hôtel et dit qu'il est étrange d'habiter à l'hôtel quand on se trouve seulement à 200 mètres de chez soi. Cela dit, je n'ai vraiment pas envie de remettre les pieds dans notre appartement, continue-t-elle. Bien sûr, dit Eric. Plus jamais.
Moi non plus,
dit Benjamin. Qu'est-ce qu'on fait ? Demande Eric. On va au cinéma ?
J'ai faim,
dit Benjamin à mi-voix. Eric souffrait d'une grave hypothermie à son arrivée en hélicoptère à l'hôpital d'Umeå. La blessure par balle n'était pas grave. La balle chemisée avait traversé le muscle de l'épaule gauche et n'avait que superficiellement blessé la partie externe de l'humérus. Après l'opération, il partagea la chambre de Benjamin qui avait été placé en observation pour qu'on le réhydrate et que son traitement médical soit rétabli. Benjamin n'avait pas eu d'hémorragie grave et se remettait rapidement. Dès le premier jour à l'hôpital, il avait commencé à dire qu'il voulait rentrer. Eric et Simone ne voulurent d'abord pas en entendre parler. Ils voulaient qu'il reste en observation à la fois en raison de sa maladie et pour rencontrer quelqu'un qui l'aide à surmonter ce qu'il avait vécu. Kerstin Bengtsson, la psychologue, semblait stressée et ne pas vraiment comprendre le degré de danger auquel Benjamin avait été exposé. Quand elle vit Eric et Simone après avoir discuté avec Benjamin durant 45 minutes, elle affirma brièvement que le garçon se portait bien au vu des circonstances, qu'il suffisait de le surveiller et de lui donner du temps. Eric et Simone se demandaient si la psychologue n'avait pas tout bonnement cherché à les rassurer, car il était évident pour eux que Benjamin aurait besoin d'aide. Ils voyaient bien qu'il cherchait parmi ses souvenirs, comme s'il avait déjà décidé de faire abstraction de certains. Il redoutait qu'il ne se referme autour de ces événements comme la roche autour d'un fossile, si on ne l'entourait pas suffisamment.
« Je connais deux très bons psychologues, » dit Eric. « Je prends contact avec eux dès qu'on rentre. »«
Bien, » dit Simone.
« Et toi, comment te sens-tu » poursuivit-il.
« On m'a parlé d'un hypnotiseur qui... »«
Méfie-toi de lui. »«
D'accord, » sourit Simone.
« Non, sérieusement, » dit-il ensuite. « Nous allons tous avoir besoin de surmonter ce qui s'est passé. »
Elle hocha la tête. Son regard devint pensif.
« Mon petit Benjamin, » dit-elle tendrement.
Eric retourna se coucher dans le lit à côté de celui de Benjamin et Simone s'installa sur la chaise entre les deux. Ils regardaient leur fils pâle et maigre allongé là, regardaient inlassablement son visage comme quand il était nouveau-né.
« Comment vas-tu ? » demanda délicatement Eric.
Benjamin détourna le visage et regarda par la fenêtre. L'obscurité au dehors transformait le verre en un miroir qui tremblotait sous le choc et la poussée du vent. Quand Benjamin était sorti sur le toit du bus avec l'aide d'Eric, il avait entendu le deuxième coup de feu. Il avait glissé et failli tomber dans l'eau. Au même instant, il avait vu Simone dans le noir au bord du grand trou dans la glace. Elle lui avait hurlé que le bus était sur le point de couler, qu'il fallait qu'il atteigne la glace le plus vite possible. Benjamin avait vu la bouée de sauvetage dans l'eau noire et mouvementée de l'autre côté du bus et avait sauté. Il l'avait attrapée, l'avait enfilée et avait nagé vers le bord. Simone était allongée sur la glace et avait rampé jusqu'au bord. Elle l'avait saisie, l'avait hissée hors de l'eau en tirant la bouée et l'avait éloignée un peu plus du grand trou dans la glace. Elle avait enlevé sa veste et l'en avait entourée. Elle l'avait enlacée et lui avait dit qu'un hélicoptère allait arriver.
« Papa est encore dedans !»
dit Benjamin en pleurant. Le bus avait sombré rapidement. Il avait disparu dans l'eau dans un dernier grincement, puis tout était devenu noir. Des vagues agitées clapotaient, des bulles d'air gargouillaient. Simone s'était levée
et avait vu les plaques de glace se stabiliser dans les remous de l'eau. Elle s'était effondrée et avait serré Benjamin fort contre elle, quand soudain, il fut tiré d'un coup sec. Il lui fut arraché des bras. Il avait tenté de se mettre debout, mais avait dégringolé. La corde de la bouée s'était tendue sur la glace et avait plongé dans l'eau. Benjamin avait été attiré vers le trou. Il s'était débattu, avait patiné sur ses pieds nus et crié. Simone l'avait attrapé et ensemble, ils avaient glissé vers le bord du trou.
« C'est papa !»
avait crié Benjamin à Simone.
« Il avait la corde autour du ventre !»
Le visage de Simone s'était fait dur et résolu. Elle avait empoigné la bouée, y avait accroché ses deux bras et avait campé ses talons dans la glace. Le visage de Benjamin s'était tordu de douleur. Ils étaient traînés de plus en plus près du trou. La corde était tellement tendue qu'elle émettait une note sourde en frottant le bord de la glace. Ensuite, la lutte acharnée contre la corde avait changé de camp. C'était toujours aussi lourd, mais ils avaient réussi à reculer, à s'éloigner du bord. Tout à coup, il n'y avait presque plus eu de résistance. Ils avaient tiré Eric par la fenêtre de toit du bus. Il était ensuite remonté rapidement à la surface. Quelques secondes plus tard, Simone l'avait tiré sur la glace. Là, il était resté allongé à plat ventre, crachant et suffoquant, tandis qu'une tache rouge se répandait sous lui. Quand la police et l'ambulance étaient arrivés à la maison de Youssi, ils avaient trouvé Yona allongée dans la neige avec un garrot de fortune autour de la cuisse, à côté d'un Marek criant et rugissant. Le cadavre bleu de froid de Youssi était assis avec une hache dans la poitrine devant le perron. La police et les secours en montagne avaient retrouvé un survivant dans la maison. C'était Anne-Britt, la concubine de Youssi, qui s'était cachée dans la garde-robe de la chambre à coucher. Elle était en sang, accroupie comme une enfant derrière les habits suspendus. Les ambulanciers l'avaient portée sur une civière jusqu'à l'hélicoptère pour lui prodiguer les premiers soins durant le trajet. Deux jours plus tard, les plongeurs secouristes étaient descendus par le trou dans la glace pour remonter le corps de Lydia. À une profondeur de 64 mètres, le bus était posé sur ses six roues comme s'il stationnait à son arrêt pour embarquer des passagers. Un plongeur était entré par la porte de devant et avait éclairé les sièges vides de sa torche. Le fusil était par terre au fond du couloir central. Le plongeur avait dirigé la lumière vers le haut. C'est à ce moment seulement qu'il avait vu Lydia. Elle flottait, le dos collé contre le plafond du bus, les bras pendant vers le bas et la nuque courbée. La peau du visage avait déjà commencé à se relâcher et à se détacher. Ses cheveux roux ondoyaient doucement dans les mouvements de l'eau. Sa bouche était calme et ses yeux fermés comme dans un sommeil profond. Benjamin n'avait aucune notion du lieu où il avait été retenu les premiers jours après son enlèvement. Il était possible que Lydia l'ait séquestré dans sa maison ou chez Marek, mais il était si étourdi par les anesthésiques qu'on lui avait injectées qu'il n'avait pas vraiment compris ce qui se passait. On lui avait sûrement administré plusieurs piqûres chaque fois qu'il commençait à se réveiller. Les premiers jours restaient obscurs. Il avait repris conscience dans la voiture en route pour le Nord, avait trouvé son portable et réussi à téléphoner à Eric avant d'être découvert. Ils avaient dû entendre sa voix depuis le coffre de la voiture. Puis étaient venus les jours terribles. Eric et Simone n'avaient réussi à lui arracher que quelques bribes. Ils avaient seulement compris qu'il avait été forcé de rester allongé par terre dans la maison de Youssi, une laisse autour du cou. À en juger par son état en arrivant à l'hôpital, il n'avait ni bu ni mangé depuis plusieurs jours. Il avait des engelures aux pieds, mais il s'en remettrait. Il avait réussi à s'échapper grâce à Youssi et Anne-Britt, avait-il raconté avant de redevenir silencieux. Un peu plus tard, Benjamin avait continué à raconter comment Youssi l'avait sauvé lorsqu'il avait essayé d'appeler Simone, et comment il avait fui dans la neige et entendu Anne-Britt hurler quand Lydia lui avait coupé le nez. Benjamin s'était faufilé entre les vieilles voitures pour se cacher et avait grimpé par une fenêtre ouverte dans un des bus recouverts de neige. Là, il avait trouvé quelques tapis et une couverture moisie qui l'avait très certainement empêché de mourir de froid. Il s'était endormi dedans, roulé en boule sur le siège conducteur. Il s'était réveillé quelques heures plus tard en entendant les voix de ses parents.
« Je ne savais pas que j'étais en vie », avait chuchoté Benjamin.
Puis, il avait entendu Marek les menacer et s'était rendu compte qu'il était en train de regarder fixement la clé de contact du bus. Sans se poser de questions, il avait tenté de le démarrer,
vu les phares s'allumer et entendu le moteur rauque et impétueux rugir furieusement. Il avait alors foncé droit sur l'endroit où il imaginait que Marek se trouvait.
Benjamin s'était tu et quelques grosses larmes s'étaient accrochées à ses cils. Après 48 heures à l'hôpital d'Umeå, Benjamin fut suffisamment fort pour pouvoir marcher. Avec Eric et Simone, ils rendirent visite à Yona, qui était au service post-opératoire. Les ciseaux avec lesquels Marek l'avait poignardé lui avaient abîmé la cuisse, mais 3 semaines de repos allaient sans doute lui permettre de récupérer complètement. Une belle femme avec une tresse blonde et soyeuse par-dessus l'épaule était à ses côtés et lisait un livre à voix haute quand ils entrèrent. Elle se présenta comme Disa, une amie de longue date.
« Nous faisons partie d'un cercle de lecture. Il faut que je veille à ce qu'ils suivent », dit Disa avec un accent suédo-finlandais en posant le livre.
Simone vit qu'elle lisait « La promenade au phare » de Virginia Woolf.
« J'ai pu emprunter un petit appartement à des sauveteurs en montagne », dit Disa avec un sourire.
« Vous aurez une escorte policière à Arlanda », dit Yona à Eric.
Ensemble, Simone et Eric avaient essayé de décliner l'offre. Ils sentaient tous les deux qu'ils avaient besoin d'être seuls avec leur fils et de ne plus voir de policiers. Quand Benjamin eut son bulletin de sortie de l'hôpital, vers le 4e jour, Simone réserva immédiatement les billets d'avion pour le retour, puis alla chercher du café. Mais pour la première fois, la cafétéria de l'hôpital était fermée. Dans la salle commune, il n'y avait qu'un peu de jus de pomme et quelques biscuits. Elle sortit pour essayer de trouver du café quelque part, mais tout était fermé et paraissait étrangement désert. Un calme apaisant régnait sur la ville. Elle s'arrêta devant une voie ferrée et resta là à regarder les rails luisants, la neige sur les traverses et les remblais. Au loin, dans l'obscurité, elle devinait la large rivière Umeälven et les rayures dessinées par la glace blanche sur l'eau noire brillante. À cet instant seulement, quelque chose en elle commença enfin à se détendre. Elle pensa que tout était fini. Ils avaient récupéré Benjamin. À leur atterrissage à l'aéroport d'Arlanda, ils virent l'escorte policière de Yona Linna qui les attendait. Une dizaine de journalistes impatients se tenaient prêts avec leurs caméras et leurs micros. Sans échanger un mot, ils empruntèrent une autre sortie, passèrent derrière la foule et hélèrent un taxi.